Chapitre 8. L'oiseau était écrasé entre eux et le garçon sentit un pouce calleux chercher son orbite. Il le retourna tout en remontant la cuisse pour bloquer le genou de Corte qui cherchait à lui frapper l'entrejambe. Il abattit la main en trois coups brutaux sur la nuque de Corte comme s'il frappait de la pierre bosselée. Corte poussa un grognement pâteux. Tout son corps frissonna. Roland vit vaguement une main tâtonner dans l'air à la recherche du bâton, et il la devança dans un grand bond. Il envoya le gourdin hors d'atteinte. David avait planté les serres d'une de ses pattes dans l'oreille droite de Corte. De l'autre, il labourait impitoyablement la joue du maître, le réduisant en charpie. Du sang chaud éclaboussa le visage du garçon dans une odeur de copeaux de cuivre. Le poing de Corte frappa l'oiseau une première fois, lui brisant le dos. Au deuxième coup, la tête bascula en craquant, tordue. Et pourtant, les cerfs labouraient toujours. Il n'y avait plus d'oreille maintenant, rien qu'un trou rouge creusé sur le côté du crâne de Corte. Le troisième coup envoya le faucon dans les airs, libérant enfin le visage de Corte. À la seconde où il vit clairement ce visage, le garçon frappa la base du nez de son maître avec la tranche de la main, usant de toutes les forces qui lui restaient pour briser l'os. Du sang gicla. La main aveugle et furieuse de Corte attrapa les fesses du garçon, tenta de lui arracher son pantalon, de l'entraver. Roland roula sur le côté, trouva le bâton de Corte et se redressa sur les genoux. Corte se mit lui aussi à genoux, le visage tordu par un rictus. Tableau incroyable, où ils se faisaient ainsi face de part et d'autre de la ligne, à cela près qu'ils avaient changé de place et que Corte se trouvait à présent du côté où se trouvait Roland au début de l'épreuve. Le visage du vieux guerrier était voilé de sang. L'œil qui voyait toujours roulait furieusement dans son orbite. Le nez écrasé formait un angle horrible. Les deux joues pendaient en lambeaux. Le garçon tenait le bâton de l'homme comme un joueur de Grand Points attendant le lâcher de l'oiseau de cuir. Corte fit une double feinte, puis lui fonça droit dessus. Le garçon se tenait prêt, pas le moins du monde leurré par ce dernier tour dont il savait tous deux qu'il était bien pitoyable. Le bois de fer décrivit un arc aplati et s'abattit sur le crâne de Corte avec un son mat. Il tomba sur le côté, suivant le garçon d'un regard aveugle et las. Un filet de bave se mit à couler de ses lèvres. « Rends-toi, ou meurs !» dit le garçon, la bouche remplie de coton mouillé. Et Corte sourit. Il avait presque totalement perdu conscience et il allait rester alité une semaine dans sa cabane, drapé dans les ténèbres du coma. Mais en cette seconde, il s'accrochait avec toute la force de sa vie, sans ombre et sans pitié. Il vit dans les yeux du garçon ce besoin de palabrer, et même avec un rideau de sang devant les yeux, il comprit ce que ce besoin avait de désespéré. « Je me rends, pistolero. Je me rends le sourire aux lèvres. En ce jour, tu t'es rappelé le visage de ton père et celui de tous ceux qui sont venus avant lui. Quelle merveille tu as accompli !» L'œil valide de Corte se ferma. Le pistolero le secoua doucement, mais avec insistance. Les autres s'étaient regroupés autour d'eux, l'attiraient contre eux et lui tapaient dans le dos avec des mains tremblantes. Mais pris de peur, ils se reculèrent, sentant s'ouvrir un nouveau gouffre. Et pourtant ce n'était pas aussi étrange que cela, car il y avait toujours eu un gouffre entre celui-ci et les autres. L'œil de Corte s'ouvrit de nouveau en roulant. « La clé !» dit le pistolero. « Mon patrimoine, maître. J'en ai besoin. » Son patrimoine, c'était les pistolets, non pas ceux lourds de son père, lourds comme le bois de santal, mais des pistolets tout de même, réservés aux heureux élus. Dans le caveau massif, situé sous la caserne, et dans lequel, selon la loi immémoriale, il devait maintenant demeurer, loin du sein de sa mère, étaient accrochées ses armes d'apprenti, des six coups à barillet, en acier et nickel. Pourtant, ces armes avaient connu son père au cours de son apprentissage, et à présent, son père gouvernait. Au moins de nom. « En as-tu donc un besoin si terrible ? marmonna Kort comme dans le sommeil. Aussi pressant. Si fait, je le crains. Un besoin aussi impérieux aurait dû t'assommer. Et pourtant, tu as gagné.
La clé.
Le faucon. C'était un fin stratagème. Une arme de choix. Combien de temps as-tu mis à entraîner ce salopard ?
Je n'ai jamais entraîné David. J'en ai fait mon ami, la clé.
Sous ma ceinture, pistolero. L'œil se referma. Le pistolero fouilla sous la ceinture de Kort, sentant la forte pression du ventre, les muscles énormes à présent relâchés et au repos. La clé était accrochée à un anneau de laiton. Il l'empoigna et la serra fort, réfrénant une folle envie de la lancer vers le ciel en signe de victoire. Alors qu'il se relevait et se tournait enfin vers les autres, la main de Kort chercha son pied à tâtons. L'espace d'une seconde, le pistolero craignit un dernier assaut et se raidit. Mais Kort se contenta de lever l'œil vers lui et de tendre un doigt couvert d'escarres.
« Je vais dormir à présent, » murmura-t-il calmement. « Je vais prendre le chemin. Peut-être irai-je même jusqu'à la clairière. » Tout au bout, je ne sais pas. Je ne t'enseignerai plus, pistolero. Tu m'as surpassé. Et 2 années plus tôt que ton propre père, qui était lui-même le plus jeune. Mais laisse-moi te conseiller.
Quoi ? Dans sa voix, l'impatience.
Efface immédiatement ce regard de ton visage, l'astico.
À sa grande surprise, Roland obéit. Bien que tapi derrière son propre visage, comme chacun de nous, il n'en sut rien. Kort approuva d'un signe de tête et murmura un mot, un seul. Attends.
Quoi ?
L'effort qu'il en coûtait à cet homme de parler donnait à ses paroles un poids particulier.
Laisse la rumeur et la légende te précéder. Voici ceux qui les colporteront toutes deux.
Ses yeux papillotèrent au-dessus de l'épaule du pistolero.
Des idiots, peut-être. Attends que pousse la barbe de ton ombre. Laisse-la s'étoffer.
Un sourire grotesque se peignit sur son visage.
Avec le temps, les mots peuvent enchanter un enchanteur même. Comprends-tu le sens de mes paroles, pistolero ?
Oui, je le crois.
Accepteras-tu mon dernier conseil en tant que professeur ?
Le pistolero bascula en arrière sur ses talons, s'accroupissant en une posture de réflexion qui augurait des pauses que prendrait l'homme qu'il allait devenir. Il leva les yeux vers le ciel. L'ombre gagnait, prenant des teintes pourpres. La chaleur du jour déclinait, et à l'ouest, des têtes de cumulonimbus annonçaient de la pluie. À plusieurs lieues de là, des lames de foudre tailladait le flanc placide des collines. Au-delà, les montagnes. Au-delà, les fontaines jaillissantes du sang et de la déraison. Il était fatigué. Fatigué dans ses os, et plus encore. Il baissa les yeux vers Kort.
Ce soir, je mettrai mon faucon en terre, maître. Puis je descendrai dans les bordels de la basse ville pour informer celles qui s'enquerront de vous. Peut-être en réconforterai-je une ou deux en passant.
Les lèvres de Kort s'entr'ouvrirent en un sourire douloureux, puis il s'endormit. Le pistolero se releva et se tourna vers les autres.
Confectionnez une civière et portez-le jusque chez lui. Puis faites venir une infirmière. Non, deux infirmières. D'accord ?
Il le fixait toujours, pris dans un instant suspendu, qu'aucun d'eux n'osait rompre immédiatement. Il cherchait toujours la couronne de feu ou la métamorphose magique.
« Deux infirmières !» répéta le pistolero.
Puis il sourit. Ils lui rendirent son sourire. Un sourire nerveux.
« Espèce de sale meneur de chevaux !» se mit soudain à hurler Cuthbert, souriant jusqu'aux oreilles. « Tu ne nous as même pas laissé assez de viande sur l'os !»«
Le monde ne va pas changer demain, » dit le pistolero, citant ce vieil adage, le sourire aux lèvres.
« Alain, mou du cul, bouge ta graisse !»
Alain entreprit de faire la civière. Thomas et Jamie prirent ensemble la direction du hall principal et de l'infirmerie. Le pistolero et Cuthbert se regardèrent. Ils avaient toujours été les plus proches, du moins aussi proches que le permettaient les nuances de leurs caractères respectifs. Il y avait dans les yeux de Bert une lueur ouverte et spéculative, et le pistolero ne maîtrisa qu'à grand-peine le besoin de lui dire de ne pas passer l'épreuve avant un an, ou même 18 mois, de crainte de devoir partir à l'ouest. Mais ils avaient traversé une grande aventure ensemble, et le pistolero ne voulait risquer de dire une telle chose avec ce qui passerait pour de l'arrogance.
« Voilà que je commence à comploter, » se dit-il avec une pointe de consternation.
Puis il songea à Martin, à sa mère, et il lança à son ami un sourire trompeur.
« Mon destin est d'être le premier, » pensa-t-il en prenant pleinement conscience pour la première fois. « Je suis le premier. »
« Allons-y, » dit-il. « Avec plaisir, pistolero !»
Ils sortirent par l'issue est du couloir bordé de haies. Thomas et Jamie revenaient déjà avec les infirmières. On aurait dit des fantômes dans leurs robes d'été blanches et vaporeuses, avec la croix rouge sur la poitrine.
« Veux-tu que je t'aide pour le faucon ?» demanda Cuthbert.
« Oui, » répondit le pistolero. « Ce serait adorable, Bert. » Et plus tard, lorsque l'obscurité fut venue, et avec elle les orages effrénés, tandis que d'énormes caissons fantomatiques traversaient le ciel en roulant, et que les éclairs nettoyaient les ruelles malfamées de la basse ville dans un grand incendie bleu, tandis que les chevaux à la tâche attendaient la tête baissée et la queue pendante, le pistolero prit une femme et coucha avec elle. Ce fut bref et bon. Quand ce fut terminé, et qu'ils restèrent étendus côte à côte sans parler, il se mit à grêler par rafales féroces et bruyantes. En bas, au loin, on jouait « Hey Jude » façon ragtime. L'esprit du pistolero, pensif, se tourna vers l'intérieur de lui-même. Et ce fut dans ce silence éclaboussé de grêle, juste avant que le sommeil ne s'empare de lui, qu'il pensa pour la première fois qu'il était peut-être aussi le dernier.